Et nous voici de retour pour continuer cette exploration du 22e Salon Rural Livre de Fruges, salon de littérature jeunesse qui célèbre aujourd'hui et demain sa 22e édition depuis l'espace culturel Francis Sagot de Fruges, qui accueille des conférences, qui accueille des ateliers, qui accueille des auteurs, des libraires, des éditeurs. Et sachez également que le Salon Rural Livre est présent dans de nombreux endroits de la ville de Fruges, quasiment tous les bâtiments municipaux presque qui sont mobilisé, ça va du foyer socio-culturel en passant par la salle de sport, sans oublier l'hôtel de la communauté de communes ou encore le boulodrome. Il y a de nombreuses animations, notamment une animation country. On vous proposera un petit résumé de cette animation grâce à Laura dans quelques minutes. Des débats qui se poursuivent également en présence des nombreux collégiens du secteur et même d'un peu plus loin. Ce sont plus de 1400 jeunes qui sont attendus aujourd'hui à l'occasion de ce 22e Salon Rural Livre. Et puis ce sont également des auteurs présents qui vont rejoindre petit à petit la salle Sagot pour de nombreuses dédicaces. Ce sont par exemple les auteurs invités pour présenter leurs ouvrages à l'occasion de la sélection de Rural Livre, Grignoteurs pour les 6e, 5e et Dévoreurs pour les 4e, 3e. On retrouve dans ces stands pour présenter leurs ouvrages et pour les dédicacer aux acheteurs et aux lecteurs Aurélien Lonc, Christelle Mouchard, Pascal Ruther, Nathalie Stragier, Christophe Léon, Flore Vesco ou encore Aurélie Wellenstein, et quelques-uns passeront encore sans doute au micro de Radio Plus ce soir et demain. Et en attendant la suite du programme et nos prochains invités, je vous propose de retrouver une chronique consacrée à la littérature jeunesse, chronique qui vous est proposée par Marie-Françoise Ten de l'association Lis avec moi, que vous retrouvez régulièrement dans l'émission La vie des livres, présentée par Christophe Fuhr chaque mercredi de 9h à 11h et de 20h à 22h sur Radio Plus. Et bien Marie-Françoise, on vous propose de retrouver sa chronique en date du 11 mai 2016.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, donc d'un album, qui s'appelle « Partir au-delà des frontières » de Francesca Sanna chez Gallimard Jeunesse. Alors je dis souvent que les albums, c'est un genre littéraire à part entière et pas forcément un genre, comme souvent on l'associe à la petite enfance, parce que ce livre peut aussi parler aux adultes. Et il n'est pas forcément adapté aux enfants tout petits, contrairement à certains livres que je vous présente parfois. Et donc ce livre, vous parle d'une famille qui, pour fuir la guerre, va se lancer dans un voyage très difficile. Et puis ce livre, va nous parler d'une réalité que nous rencontrons régulièrement actuellement et que nous voyons souvent aux infos. Hein, et ce livre, il va aider à faire comprendre ce qui pousse ces gens. Dans ce livre, vous avez peu de mots, mais beaucoup de détails. Je veux dire que les mots ne décrivent pas forcément la situation telle qu'on l'entend parfois aux infos. Mais dans les illustrations, vous avez énormément de détails qui vous donnent à voir. Et vous avez beaucoup de non-dits, d'expériences. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour expliquer aux enfants et même aux adultes. Alors Francesca Sanna, elle vous explique à la fin de ce livre que ce livre est né de sa rencontre avec deux jeunes filles dans un centre pour réfugiés en Italie. Et qu'en rencontrant ces jeunes filles, elle a réalisé tout ce que ce voyage représentait dans leur vie. Elle s'est mise à rassembler des informations sur l'immigration, elle a interrogé beaucoup de mondes, de pays différents. Et ce livre, en septembre 2014, elle a commencé des études d'illustration en Suisse. Et elle s'est dit qu'elle voulait créer un album qui raconterait des histoires, cette histoire vraie de ces gens qui fuient la guerre. Et donc c'est un hommage, elle vous dit que c'est un hommage à toutes ces personnes, à leur parcours particulier et à la force incroyable dont ils témoignent. Alors ce livre, je vous invite à aller le voir. Comme je dis souvent, je ne peux que vous en parler, mais je ne peux pas vous donner à voir les illustrations. Mais les illustrations, elles sont vraiment parlantes, elles sont poignantes, elles ont une force incroyable. Il y a beaucoup de petits détails qui nous parlent vraiment de ce parcours et de cette difficulté de toutes ces personnes. Donc c'est une famille qui dit qu'ils avaient une vie complètement normale. On les voit d'ailleurs au début du livre au bord de la plage. Une vie comme tout le monde, une vie joyeuse, heureuse, avec tout ce que l'on peut imaginer. Et puis on vous dit qu'un jour la guerre est arrivée et que leur monde a basculé dans le chaos. On vous dit ensuite que la guerre a emporté le papa, et que l'avenir est devenu très sombre, que la mère se faisait beaucoup de soucis. Avec toujours, je vous invite vraiment à aller voir, tout un jeu dans cette illustration très sombre, où la guerre est représentée par un personnage tout en noir, et des références à la vie heureuse, à la couleur, à la joie de vivre d'avant. Et puis dans ce livre, on vous dit qu'un jour, une amie dit à la maman qu'il y a un pays où de nombreuses personnes décident de fuir, un pays lointain. Et donc la maman va commencer à faire des recherches pour montrer aux enfants où est ce pays, ce qu'il y a. Elle leur montre des photos de villes étranges, de forêts, d'animaux inconnus. Et elle leur dit qu'il faut partir, que là-bas, ils n'auront plus peur. Il va y avoir aussi toute l'étape de préparer ce voyage. On vous montre les bagages, la difficulté de choisir, d'emmener, de prendre tout ce que l'on a accumulé au long d'une vie. Cette envie d'emmener dans ce pays où l'on va fuir. Faire un choix, on ne peut pas tout emmener. Et puis vous allez avoir le voyage. Donc nous partons de nuit pour passer inaperçus. On roule sans arrêt pendant plusieurs jours, de plus en plus loin et de plus en plus démunis. Il va y avoir un jeu dans cette illustration où on va vous montrer la famille qui part en voiture et puis qui après part en camion et se cache un peu. Ensuite, dans un camion de fruits, se cache un peu plus pour terminer à vélo avec très peu d'affaires et complètement démunis. Enfin, nous parvenons à la frontière. Il y a un mur immense, infranchissable. Et pourtant, nous devons l'escalader. Oh non, un garde surgit énorme en colère. Il crie, vous n'avez pas le droit, allez-vous-en. Mais nous n'avons nulle part où aller. Et nous sommes à bout de force. Vous allez retrouver la famille dans la forêt qui se cache avec la maman qui prend ses enfants dans ses bras, qui les protège. Et vous allez avoir à un moment donné un texte qui dit « Heureusement, maman est là, elle n'a jamais peur. Alors nous fermons les yeux pour dormir un peu. » Et l'on voit cette maman qui, quand ses enfants s'endorment, se met à pleurer. Cette maman qui donne le change à ses enfants, qui ne leur montre pas son angoisse. Et puis, ils vont être réveillés par des cris, les gardes qui les cherchent. Il va falloir fuir encore, se cacher. Et puis, un moment, nous courons à perdre haleine et voilà qu'apparaît un homme inconnu qui propose de nous aider. Ma mère doit lui donner beaucoup d'argent et il nous fait passer le mur. Il fait nuit, personne ne nous voit. Et donc, cet énorme personnage qui les prend dans sa main et les fait passer le mur. Et là, vous arrivez, après ces pages très sombres, sur une page de couleur. Ils sont au bord de la mer. C'est très joli, c'est très chaud. On pourrait presque se croire revenu à l'époque de leurs vacances au bord de la plage. Mais on vous dit que la frontière est derrière nous et pourtant nous sommes encore loin. À présent, la mer s'étend sous nos yeux à perte de vue. Comment allons-nous faire? Et l'on voit au pied d'une montagne au bord de la mer un petit bateau et beaucoup, beaucoup de monde qui attend après ce bateau. Et donc le voyage va être difficile. Ils sont nombreux dans ce bateau, ils sont serrés, ils ont peur, ils se racontent des histoires en attendant peut-être de chavirer. Le bateau tangue, les vagues sont immenses, on dirait que la mer n'en finira jamais, on se rassure avec de nouvelles histoires, en imaginant très fort ce pays là-bas, avec ses forêts vertes, loin de la guerre. Et puis ils vont arriver, voilà, la maman va leur dire « nous sommes arrivés ». Et puis pour terminer, on les voit dans un train, et ce livre se termine comme ça. « Plusieurs jours et plusieurs nuits encore, nous avançons, passons d'autres frontières, et par la fenêtre d'un train, j'observe une nuée d'oiseaux qui semble nous suivre ». Ce sont des oiseaux migrateurs. Comme nous, ils font des kilomètres, traversent les pays, mais eux ne connaissent pas les frontières. J'espère que bientôt, comme ces oiseaux, nous trouverons un endroit pour nous, une maison bien à l'abri, où nous pourrons reprendre notre vie. Je trouve que terminer par ces oiseaux migrateurs, c'était quand même quelque chose de magnifique. Alors je vous invite à aller le voir, à le lire à vos enfants. Voilà, c'est joliment dit, joliment illustré. Et puis voilà, je pense que ça peut... Ça peut montrer un petit peu le parcours de tous ces gens qui cherchent à fuir la guerre. Voilà.
Et voilà pour cette chronique de Marie-Françoise Ten, chronique de littérature jeunesse à retrouver régulièrement sur Radio Plus dans l'émission La Vie des Livres.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio-Plus. 16h10 et nous sommes à présent en compagnie de Pascal Puchois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération des foyers ruraux 59-62 et vous êtes présent parmi nous pour nous parler justement de l'actualité des foyers ruraux. Mais avant de parler de l'actualité, un petit rappel salutaire pour nos auditeurs. Qu'est-ce que les foyers ruraux 59-62 ?
Les foyers ruraux 59-62 est une fédération qui regroupe les associations d'animation locale dans les villages. Des associations qui ont pour but d'animer le village. Ça peut être des associations mono-activités ou des associations qui font vivre le village avec beaucoup d'activités. Je pense à des villages où l'association s'occupe de la bibliothèque, bien sûr, c'est un des centres du village, mais également de théâtre, de peinture, de scrapbooking, de danse, de, j'ai déjà dit le théâtre, le conte, c'est X variétés. Il n'y a pas une association qui se ressemble. Moi, j'ai pas en plein la mienne, qui a la particularité d'avoir une variante autour de l'environnement et de la randonnée avec des ânes. C'est une particularité.
Ça veut dire aussi que ces associations prises indépendamment les unes des autres, oh, si on met de côté le côté fédération, sont finalement assez autonomes.
Toutes ces associations sont des associations loi 1901 qui fonctionnent, donc le type de structure avec leur comité directeur, leur statut, leur association. Donc elles fonctionnent. Le but qu'elles ont, c'est d'être fédérées auprès de nous pour apporter des choses en commun, participer. Par exemple, l'action Rural Livre, c'est une association que la fédération propose et que des associations reprennent.
C'est une mutualisation des moyens, donc, finalement, que vous proposez aux associations ?
C'est une mutualisation, mais également une aide, une entraide, une aide à monter les projets. On est une tête de réseau, on est là pour être au service d'associations. Nous, on recherche les acteurs, on cherche les financements pour des projets. On est là pour les aider.
Alors, on parle de ces associations qui sont utiles à la vie dans les villages, justement. Comment se porte la vie dans les villages de nos jours, actuellement, en 2017, pour être très clair ?
Eh bien, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, samedi, à Merville, on a une journée débat, conférence, on pourrait dire formation, autour de l'éducation populaire et les foyers ruraux actuellement. Parce que, normalement, la loi 1901, c'est, au départ, des personnes qui mettent des choses en commun. Et de plus en plus, actuellement, on devient une prestation de service. Des gens viennent, consomment et repartent. Ça, c'est le petit problème qu'il y a dans le fonctionnement associatif. Bon, mais ça se décline non seulement au milieu rural, mais également dans les villes, ça. Hein.
Alors, le problème que vous nous évoquez, est-ce que c'est pas justement lié au fait que de plus en plus dans les campagnes et donc dans les villages arrivent des gens qui viennent, on va être dans le cliché, hein, mais qui viennent de la ville chercher le calme de la campagne et un accès pas trop éloigné à l'autoroute pour aller travailler à la ville. Est-ce que ce cliché-là, c'est vraiment ce qu'on retrouve aussi dans les villages ou est-ce que c'est finalement une image d'Épinal ?
C'est pas un cliché, c'est ce que j'appelle les supruraux qui viennent là et que l'on retrouve plus tard, c'est des gens que l'on retrouve au bout de 10-15 ans qui viennent après dans l'association s'investir. Et au départ, ils viennent consommer de l'activité. C'est ça.
Donc effectivement, on est loin du cliché. Alors, en tant que fédération, vous soutenez plusieurs événements. Rural Livre, dont c'est la 22e édition. Rural Livre, dont on connaît, notamment parce qu'on est présent ici pour relayer l'événement à Radio Plus, dont on connaît la déclinaison à Fruges, hein, qui est à Fruges depuis 17 ans maintenant, si ma mémoire est bonne.
17 ans à Fruges.
Et il y a des délocalisations, on va dire ça comme ça.
C'est pas une délocalisation, c'est que le Rural Livre de Fruges et le Rural Livre original du Pas-de-Calais, qui est une action issue de la Fédération du Pas-de-Calais. Et lorsqu'on a fusionné avec la Fédération du Nord, on a dit on va créer un Rural Livre dans le Nord. Et c'est marrant parce que ce n'est pas les mêmes auteurs. Certains sont communs, ce ne sont pas d'autres. C'est le même fonctionnement, c'est des comités de lecteurs qui choisissent. Ils ne choisissent pas les mêmes auteurs.
Donc on va retrouver, lors de ce Rural Livre à Merville, là, qui arrive au mois de juin, dans quelques jours, des auteurs qui sont strictement différents de ce qu'on retrouve dans la sélection de cette année 2007 à Fruges ?
Pas strictement, mais beaucoup d'auteurs différents. Je pense qu'il y en a trois seulement de communs sur toutes les sélections.
Alors, vous parliez de fusion entre le Nord et le Pas-de-Calais. De quand date cette fusion ?
Alors, en 2001, on a fusionné la Fédération du Nord, la Fédération du Pas-de-Calais et l'Union régionale. Pourquoi fusionner ? C'est pour mutualiser des moyens. Une trésorerie, une trésorière, une personne qui gérait la trésorerie, une personne qui gérait le secrétariat, un directeur plutôt que trois.
La fusion, c'est aussi une thématique qui impacte la région. Elle a fusionné l'année dernière. Le Nord-Pas-de-Calais a rejoint la Picardie ou l'inverse pour donner les Hauts-de-France. Est-ce que cette fusion de la région, des deux régions impacte également vos structures, particulièrement les foyers ruraux du coup ?
Elle impacte oui et non. Oui, dans le sens où on va devoir créer une union régionale avec nos amis de Picardie, qu'on a rencontrés plusieurs fois. Si on n'a pas cette union régionale, eh ben, on va perdre toutes les subventions de la région. Donc il faut une tête de région. La région veut en face d'elle une union régionale Hauts-de-France. Donc on va donc le créer. Notre but est de mutualiser les moyens, bien sûr, mais on n'a pas beaucoup de choses communes en action. Peut-être que des idées qui se déroulent actuellement dans le Nord-Pas-de-Calais partiront ensuite dans la Somme. Mais je pense que l'action Rural Libre, on pourra peut-être l'exporter. Mais l'action Compteur en campagne, qui dure déjà 6 semaines en Nord-Pas-de-Calais, je ne vois pas comment on peut grignoter dans la Somme, ou alors en faire une autre à une autre période.
Oui, ça va être des questions auxquelles il faut réfléchir. Bah tiens, puisque vous parlez de Compteur en campagne, c'est également l'occasion de s'intéresser aux autres événements majeurs proposés par la Fédération des foyers ruraux 59-62. Quelles seront les actions au calendrier de cette année 2017?
Donc la prochaine action importante, bien sûr, c'est notre Compteur en campagne, après le Rural Libre. C'est quand même sur 5 semaines et cette année 6 semaines avec les demandes. On va profiter des 2 semaines de vacances pour le rallonger un petit peu pour un des spectacles jeunes publics dans les vacances. Donc c'est 6 semaines, donc justement l'événement phare de la clôture aura lieu à Fruges. Avec une petite surprise, on va mélanger le sport et la culture avec un compteur qui va venir du sud de la France. Donc ça c'est un moment important qui va se dérouler. Et entre deux, plein de petites choses qui se déroulent. Actuellement encore, il y a Histoire d'un soir qui sont des scènes ouvertes pour des compteurs qui se lancent, qui se déroulent encore le premier vendredi de chaque mois.
Alors, si l'on souhaite justement rejoindre une équipe des foyers ruraux, si on souhaite rejoindre une association de foyers ruraux, combien d'associations est-ce qu'on recense sur le territoire Nord-Pas-de-Calais?
Alors, on recense 97 associations, sachant très bien qu'une association, ce n'est pas un village généralement. Je pense qu'on a, en particulier sur le Pas-de-Calais, au niveau de Bourthe, on a une association importante. Avec ses 200 adhérents, elle rayonne sur plusieurs villages. Donc si je dis 97 associations, on a pointé l'autre jour la fourchette, on est sur plus de 200 villages.
Donc finalement des associations qui ne sont pas fermées sur elles-mêmes avec un esprit de clocher, qui sont au contraire prêtes à proposer, j'allais dire, leur service et leurs compétences aux villages avoisinants qui n'ont peut-être pas cette vie associative qui fait le dynamisme aussi de la Fédération des foyers ruraux 52-62.
Qui n'ont pas leur peut-être à côté, mais également on mutualise, on fait des échanges de savoir. J'ai toujours à l'esprit le foyer rural de Colombie et le foyer rural de Morbecque. L'un était très féru en peinture et en travail de la terre. L'autre est très pointu en scrapbooking. Ils ont fait plusieurs échanges pour amener les techniques chez les autres. Il arrive également qu'un adhérent est adhérent de plusieurs foyers ruraux, puisque dans un temps, l'un on fait de la danse, dans l'autre on fait du théâtre. Mais c'est pas grave, c'est pas une concurrence. La carte étant valable pour tous les foyers ruraux.
Et donc une adhésion vaut pour effectivement bénéficier de tous les services proposés par les 97 associations.
97 associations.
L'adhésion, combien coûte-t-elle justement?
Alors, l'adhésion compte entre 15 et 20 euros sur les activités proposées. Après, bien sûr, il y a des variantes où on monte un peu plus cher. Je pense qu'il y a des profs particuliers qui viennent. Mais généralement, c'est entre 15 et 20 euros.
Pascal Puchois, c'est quoi un village aux yeux des foyers ruraux 59-62 et de sa fédération?
Un voyage pour nous, c'est des personnes qui se connaissent, contrairement à la ville. C'est pour ça que, par exemple, moi, je mets dans les bourgs ruraux, pour moi, c'est des gros villages, les gens qui se connaissent, des gens qui mettent en commun des choses. C'est ça qui est important, la proximité.
Donc pas en fonction d'un nombre d'habitants, parce que finalement, on peut très bien se méconnaître à 50 habitants dans le village, même si ça paraît difficile de ne pas se connaître quand le village est très petit. Mais est-ce que finalement, vous vous arrêtez à des critères purement... lié aux chiffres?
On avait mis dans le temps un critère aux chiffres, mais bon, ce critère de 5000 habitants n'a plus de sens, je dirais, puisque ça, on peut également avoir des foyers ruraux qui sont dans des hameaux de ville. Donc, mais généralement, on a mis la borne à 5000 habitants.
Pascal Puchois, si on souhaite suivre l'actualité et notamment le calendrier des activités des foyers ruraux et savoir quelle est l'association la plus proche de chez soi, comment fait-on?
Alors, l'association la plus proche de chez soi, je ne dirais pas que c'est top secret, mais pour des raisons de non-démarchage, il faut contacter la fédération directement.
D'accord. Et un numéro de téléphone ou un site internet peut-être nous communiquer?
Le site internet de la fédération, FFR 5902, ou alors le téléphone 03 21 54 58 58. Et là, on mettra la personne du foyer le plus proche de chez vous en rapport avec vous. Mais également, on vous présentera d'autres activités, parce que ce n'est peut-être pas le foyer près de chez vous qui vous intéresse par rapport aux activités que l'on propose.
Le tout, c'est d'être curieux finalement et d'oser prendre son téléphone et de contacter la fédération.
De contacter la fédération pour chercher ce qu'on veut. Déjà, si on va sur le site de la fédération, on a régulièrement des propositions d'action que l'on met en place.
Très bien, le message est passé. Merci beaucoup Pascal Puchois d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des foyers ruraux 59-62.
Merci bien.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois.
Radio Plus. 16h20 sur Radio Plus, 16h21 même pour être précis. Et d'ici quelques minutes, eh bien, on va parler de country sur Radio Plus avec une initiation à la country qui était proposée dans le cadre de Rural Livre ce mardi après-midi. Laura est allée sur le terrain recueillir quelques impressions des participants et quelques présentations de l'association de country qui était présente pour proposer ces initiations. C'est à retrouver dans quelques instants sur Radio Plus.
Ce matin quand je me suis levée, j'ai vu que tu n'étais plus là. J'avais zappé, c'est vrai. Et en gardant autour de moi, enfermée entre quatre murs, je sais bien que la vie est dure et que personne d'autre que toi ne pourra mieux guider mes pas. Oh, oh, oh. J'aimerais bien réaliser ton rêve, avoir une maison, un chien, apprendre la musique, les gamins t'emmener voyager à l'autre bout de la terre. J'aimerais bien être Superman pour t'emmener sur la lune, juste comme ça, prendre un peu de recul, regarder la planète de l'un d'un autre œil, ça vaut mieux.
Yeah.
À l'instant sur Radio Plus, et c'est avec I'm Gonna Get You Good. Nous sommes toujours en direct du Salon Ruralivre à Fruges. Il est 16h, passé de 29 minutes. Et d'ailleurs, tiens, on salue toute l'équipe de Radio Plus qui a laissé ses créneaux cette journée de mardi et qui laissera ses créneaux de demain, mercredi, pour permettre à cette émission spéciale de se réaliser. On salue également Dominique qui a assuré la liaison technique ce matin. Et sachez que nous sommes ensemble encore pour pas mal de moments, notamment parce qu'on vous fera vivre également la journée de demain avec la remise des prix à vivre à partir de 15h en présence des conseillers des délégués du conseil départemental et de la communauté de communes. Et parmi les auteurs nominés dans la sélection des dévoreurs, 4e, 3e, nous avions interviewé, souvenez-vous, Christophe Léon tout à l'heure qui parlait de son ouvrage Embardé. Et vous aurez, pourquoi pas, également l'occasion de découvrir cet ouvrage qui vous est proposé par Aurélie Wellenstein et un ouvrage qui s'appelle tout simplement Chevaux de foudre, publié chez Manière Jeunesse. On aura peut-être l'occasion d'avoir Aurélie Wellenstein dans quelques minutes. Ce qui est sûr, c'est que dans moins de 10 minutes sur Radio Plus, on va parler de country avec la découverte du club de country de Fruges. Laura est allée les interviewer et vous proposera un petit reportage pour vous faire revivre les initiations à la country qui étaient proposées aux collégiens visiteurs de ce 22e salon Ruralivre. Et on trouvera ça dans quelques instants. Le retour de la musique sur Radio Plus est avec les Talking Heads. Voici Road to Nowhere. 16h33 sur Radio Plus et les Talking Heads avec Road to Nowhere.
Radio Plus, encore plus proche de vous. Émission spéciale avec vos animateurs en direct. Toute une équipe mobilisée pour vous faire vivre les événements au cœur du bassin minier et de l'Artois. Radio
Plus. Et nous voici de retour en direct à Ruralivre avec un nouvel invité. Il s'agit d'Aurélien Long. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nominé dans la sélection des grignoteurs qui s'adresse au 6e et au 5e pour votre ouvrage Gabin, publié à l'École des loisirs et sorti en 2015. Gabin, c'est finalement un thriller pour ados, si je suis bien le synopsis de cet ouvrage.
Ouais, pour ados, même un petit peu plus tôt. J'ai pas mal de lecteurs là, des CM1, CM2. Qui accroche bien, malgré une écriture assez poétique, imagée, mais ça leur plaît. Et ouais, une sorte, enfin, un thriller, c'est beaucoup dire. Un bon livre de mystère, quoi. Voilà, il y a une intrigue, il y a un petit mystère et qui n'est dévoilé évidemment
qu'à la fin.
Qu'à la fin, et quand on comprend le pourquoi du comment, on se dit, mais on n'a pas vu les indices auparavant, c'est fou.
En tout cas, une histoire de meurtre, quand même, ou quelque chose finalement d'assez sombre. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de Gabin.
Je pourrais résumer par ce livre par méfiez-vous des apparences.
Ah bah ouais. Là, vous êtes peut-être en train de me piéger, justement.
Méfiez-vous des apparences. Voilà, je n'en dirai pas plus. Il faut vous parler de meurtre, de choses sombres. Oui, mais non. Il faut se méfier des apparences, de ce qu'on voit. Tout n'est pas vrai.
Alors, dites-nous peut-être un peu plus de quoi ça parle, parce que moi, finalement, c'est vrai que je m'en fie qu'au synopsis que j'ai en ma possession, mais finalement, ce sont les auteurs qui parlent le mieux de leurs ouvrages. C'est pour ça que je vous laissais parler un petit peu, Aurélien Long.
Ah, ça, c'est pas vrai. J'ai des lecteurs très, très jeunes qui pourraient vous parler du livre bien mieux que moi. Mais enfin, je vais essayer quand même. Alors, Gabin, alors, c'est un garçon, une sorte de cousin de Gavroche, un petit pauvre, voilà, qui... orphelin. Alors c'est un mélange entre Gavroche et Oliver Twist, d'accord. Donc ça se passe en hiver et pour subsister, ce garçon saute sur les toits. Donc je compare à un Ouistiti, c'est le Ouistiti des toits. Il saute sur les toits d'une grande ville que je ne nomme pas. Chacun situe l'action où il le désire. Et il repère des appartements vides. Alors évidemment, dès qu'il en trouve un, il crochette la serrure et il essaye d'attraper un bout de pain, une boîte de conserve, enfin une pièce ou deux s'il trouve. Et voilà, pour survivre. Et une nuit, il va assister à un meurtre. Voilà, une dame habillée comme une princesse, magnifique, et un monsieur qui arrive, habillé comme un marquis, en costume, et qui va l'assassiner de deux coups de revolver. Pan, pan. Le monsieur le voit. Et à partir de là, l'assassin présumé va lui courir après. Et ça va être le cheminement de tout la trois quarts du livre. Ça va être une course-poursuite. Voilà. Gabin qui court pour échapper à l'assassin présumé. Mais voilà, le truc, c'est qu'est-ce qu'il a vu vraiment ? Est-ce vraiment un meurtre ? Autre chose ? Est-ce que je donne des indices entre les lignes ? Voilà.
Et méfions-nous des apparences, si je résume bien ce que vous venez de nous dire il y a quelques instants.
Absolument.
Ça, c'est un ouvrage qui est donc effectivement nominé dans la sélection des grignoteurs. Et pour reprendre la question que j'ai posée à votre collègue Christophe Léon tout à l'heure, est-ce que lorsque l'on est auteur et qu'on a quand même quelques livres à son actif, parce que vous avez quand même une bibliographie qui est quand même assez fournie d'après ce que je peux lire, est-ce que c'est un aboutissement que d'être dans une sélection littéraire quelle qu'elle soit ?
Ah bah oui, c'est comme une forme de reconnaissance, parce qu'il y a quand même énormément de livres qui paraissent chaque année. Très peu sont sélectionnés pour des prix. Moi, ça m'arrive. J'ai jamais gagné de prix. Je suis un bon deuxième, moi. Mais c'est pas grave d'être sélectionné. Déjà, c'est déjà on a été repéré par des prescripteurs, des gens qui travaillent dans les bibliothèques, des instituts. Et c'est déjà très 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 chouette. Voilà. Donc je ne vise pas la première place, mais déjà être repéré, c'est déjà super.
Ouais. La particularité de Ruralivre, justement, là.
Et c'est ça qui me plaît, justement, à Ruralivre, c'est faire pénétrer le livre, voilà, en milieu rural, dans des foyers où le livre ne perce pas facilement. Apporter le livre chez ces jeunes lecteurs, parce qu'ils lisent beaucoup, malgré tout, quand on le leur demande. Les enfants lisent beaucoup plus qu'on ne le croit. On dit les tablettes, les smartphones, les consoles. Oui. Mais moi, d'après mon ressenti, parce que je parle avec beaucoup de lecteurs, ils disent beaucoup, beaucoup plus que nous à l'époque. Je ne suis pas si vieux que ça, mais enfin, voilà, ça commence à faire un peu de bouteille quand même. Mais ils lisent beaucoup et ils écrivent énormément. Voilà. Mais ils ne le disent pas facilement. Ils nous le disent à nous parce qu'on les rencontre dans les, voilà, dans leur école. Ils lisent et ils écrivent. Donc c'est quand même,
pourquoi,
c'est quand
vous
même bon signe. Je sais pas. Besoin de parler, besoin de s'exprimer dans un monde pas facile. Besoin de se raconter, de faire ressortir les choses. Peut-être dans des contextes familiaux moins. Un peu dur, je sais pas.
Un peu difficile, oui.
Difficile, ouais, ouais. Il y a ce médium, l'écriture, qui est quand même une bonne soupape de. Ouais, ouais. Je pense.
Alors, la particularité de Ruralivre, c'est que justement, les personnes qui établissent la sélection sont majoritairement des ados. Et donc là, on a quand même un auteur de littérature jeunesse qui est sélectionné par des ados. Qu'est-ce que ça vous fait, justement, de savoir que vos premiers lecteurs, finalement, vous ont retenu dans une sélection littéraire ?
C'est comme si je gagnais un Oscar, le César, la Coupe du Monde de football, tout ça en même temps. Quoi. C'est super. Hein. Ce sont mes salons préférés, moi, quand ce sont justement les ados qui choisissent ça. Voilà. Parce qu'ils ne trichent pas. S'ils aiment, ils aiment vraiment. S'ils n'aiment pas, ils vont le dire cash. Voilà. Ils ne vont pas mettre de gants. Ce qui peut arriver avec les... avec les adultes qui parfois voilà,
il y a un peu plus de filtre.
Voilà, on vous aime bien, c'est bien, mais enfin bon, on va pas vous. Là, ils aiment ou ils n'aiment pas. Donc quand ils aiment, voilà, c'est que du bonheur. Et surtout, c'est un âge où c'est pas facile de dire qu'on lit. C'est pas facile à un auteur d'aller le voir, lui dire bon, on a aimé votre livre parce que. C'est pas facile. C'est des âges, les 5e, 4e, 3e. Où on se méfie du regard des autres, et la plupart vont de là, et on se courage d'aller vers un auteur. C'est pas facile. Moi, j'aurais été incapable. Hein. Et ils le font. Donc, c'est très. J'ai bien fait de venir.
Alors, j'ai lu dans votre biographie que vous avez travaillé dans une école primaire et que vous essayez de donner aux élèves le goût de la lecture. Est-ce que c'est quelque chose de facile quand on est un adulte, quand on est une figure d'autorité finalement pour ces jeunes-là, de leur donner le goût de la lecture, ou est-ce qu'ils considèrent ça un peu comme la tâche scolaire qui est imposée par le prof, qui est un petit peu barbant parfois, comme ça peut être perçu chez certains jeunes, en tout cas j'imagine.
C'est-à-dire que c'était en école primaire, donc c'est encore un âge et une époque où les enfants étaient très demandeurs d'histoire. Donc c'était pas vu comme quelque chose de rébarbatif. Voilà, c'était encore, si on leur proposait un livre et une console, beaucoup choisissaient quand même le livre. Parce que voilà, ils étaient friands d'histoire. Si j'avais été prof en collège, je sais pas si le contact, enfin si le goût de la lecture serait passé aussi facilement.
L'âge fait plus que le contexte ? Finalement, puisque vous me disiez que le contexte aussi de l'époque où vous travailliez en école primaire était un contexte où on avait moins accès peut-être justement à tout ce qui est électronique, ouais. Les consoles, les smartphones, les tablettes, etc. Est-ce que finalement, ce que vous nous dites qui était valable à l'époque est encore valable aujourd'hui, d'après vous ?
Oui. Ouais, oui. Oui, oui. Là, récemment, j'ai fait plusieurs écoles primaires. Mmh. Et j'ai été bluffé à chaque fois par le... J'ai rebondi sur une phrase qu'a dit un auteur qui s'appelle Timothée de Fombelle, qui a dit, mais si on inventait en fait, le livre aujourd'hui, on trouverait que c'est une invention incroyable. Avec les enfants, ce qui est bien, c'est qu'ils voient le livre comme quelque chose de frais encore. Voilà, pour les primaires. Mmh. Et donc ça passe. Voilà, si on vient leur parler de livres, d'imaginaire, d'aventure. Ça, le courant passe, ils ont des yeux écarquillés, ils vous écoutent, ça les intéresse encore. Ouais. Après malheureusement voilà, il faut reprendre la bataille au collège. Mmh. Ils abandonnent un peu la lecture pour d'autres activités, mais en tout cas en école primaire oui, ça fonctionne encore très bien.
J'ai quand même en tout cas aussi l'impression que les éditeurs ont un rôle important à jouer. Là, je suis passé autour de plusieurs stands. Il y a des stands où les livres sont très classiques avec la pochette un peu austère. Ça, c'est les vieux livres, hein, effectivement, qui sont de sortie. Et puis, il y a des couvertures très modernes où on voit des smartphones, où il y a des effets 3D. Ça joue aussi pour vous dans la construction de vos ouvrages lorsque vous collaborez avec une maison d'édition, de dire, ah bah tiens, la couverture, j'aimerais bien qu'elle soit comme ça pour essayer d'attirer l'œil, ou est-ce que c'est pour vous finalement l'histoire qui prime par rapport à l'emballage finalement?
Alors, il faut voir la couverture comme une carte postale, d'accord? La carte postale, elle peut être réussie ou pas. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit derrière. C'est le message. Donc moi, ce qui prime, de toute façon, c'est le texte. Après la couverture, moi, j'interviens pas pour le choix des couvertures. Bon, coup de chance, toutes mes couvertures me plaisent, mais j'interviens pas. Mais j'imagine que l'éditeur, lui, a son idée sur la question, et que s'il décide de faire une couverture simple ou, à contrario, assez chargée, c'est parce qu'il vise un tel type de lecteur, de lectorat. Moi, non. Moi, je m'attends au texte, et c'est déjà pas mal.
Oui, effectivement, il y a aussi beaucoup de choses à aborder, à réfléchir quand on est auteur. Et notamment, vous avez quand même une discographie. Ça, c'est le réflexe de parler plus souvent de musique que de littérature. Une bibliographie qui est assez riche. Et il y a la bande à Grimm, dont j'aimerais que l'on parle, parce que ça a été trois ouvrages, 2012, 2013, 2014, qui se sont succédés, j'imagine, finalement, en très peu de temps. Et j'aimerais qu'on parle de cette trilogie, de ce qu'elle raconte, comment est-ce qu'elle s'est construite.
Alors, La bande à Grimm, c'est une belle aventure, parce que normalement, ça ne devait pas être une trilogie, justement. C'était un livre unique, La bande à Grimm, le numéro 1. Et livre qui a bien marché, qui plaît beaucoup, qui a été pas mal étudié en classe. J'ai été beaucoup, beaucoup invité, et on m'a beaucoup demandé d'écrire la suite. J'ai cédé. Voilà. J'ai dit, ok, d'accord, c'est bon, j'y retourne. Donc, j'ai convoqué tous mes petits personnages de La bande à Grimm. Alors, c'est une bande de... C'est une bande de gamins qui m'était directement inspiré par un vieux bouquin. On parlait de vieux bouquins, une vieille couverture austère, tout ça. Un vieux livre qui s'appelle Le cheval sans tête. Où l'auteur, Le cheval sans tête, c'est un polar, met en scène une bande d'enfants. Et moi, dans mes livres précédents, il y avait très peu de personnages. Il y en avait un, deux maximum. Il y avait peu d'action. Et puis, je me suis lancé ce défi d'écrire, d'inventer ma bande à moi. Ils auraient chacun leurs caractéristiques, leurs particularités, leur caractère. Et je me suis lancé en disant, allez, je vais faire le truc à fond, je vais vraiment m'amuser, je vais faire des dialogues qui explosifs, pétillants, vitaminés. Et voilà. Et ça a bien marché. Ah, ça a bien plu.
Et ça a si bien marché qu'il y en a eu un troisième.
Il y a deux, puis trois. Ouais. J'étais tellement. Donc, à la fin du premier, on me demande de faire la suite. Je fais la suite, je convoque mes petits bonhommes, ils viennent dans mon bureau, on discute ensemble de la suite des événements, ils me donnent quelques idées d'intrigues, je l'écris, et j'étais tellement content de les retrouver qu'à la fin du deuxième, oui, il y a un énorme cliffhanger je prends le lecteur au piège et je l'oblige à ouvrir le tome 3.
Et est-ce qu'il y a de la place pour un quatrième tome, ou est-ce que le chapitre est refermé pour le coup?
Normalement, il était refermé, mais vous êtes la énième personne qui me pose la question dernièrement. Donc, je ne sais pas. Là, je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il y aura peut-être un numéro 4?
Les projets, justement, quels sont-ils pour vous, Aurélien Lonck?
Alors, j'écris, là, en ce moment, mais je ne vous dirai pas quoi. On m'a posé la question, ça fait deux jours qu'on me pose la question. C'est quoi votre projet? C'est mon jardin secret, encore, pour l'instant. Donc, voilà, c'est encore à moi. C'est un projet qui m'appartient. Donc je garde encore un peu secret pour moi, très égoïstement, et puis voilà, un petit peu par superstition aussi, il faut bien l'avouer.
Et peut-être que vous le proposerez à Ruralivre 2018 et qu'on aura l'occasion de vous poser la question justement sur un projet fraîchement sorti.
Pas de problème.
Aurélien Lonck, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire?
Tout. Ça peut être, alors absolument tout, ça peut être les gens que je... Quand j'ai travaillé en école primaire, j'ai bien observé mes petits élèves et certains m'ont inspiré des histoires directement. Par exemple, un petit garçon dans une cour de récréation qui jouait tout seul, qui m'a inspiré une histoire, ma toute première histoire d'ailleurs, qui s'appelle l'histoire d'un épouvantail débutant. Sans cet enfant, je n'aurais pas eu l'idée de cette histoire. J'ai juste observé, j'ai transformé la réalité. Là, je me suis mis de côté, j'ai regardé la situation d'un œil un peu original et j'ai eu ma première histoire. Une autre fille avec qui j'ai travaillé, qui était malvoyante, qui m'a inspiré une autre histoire, les yeux de Maya. Donc je peux m'inspirer de gens que j'ai fréquentés, que j'ai croisés. Mais je peux m'inspirer de livres, de films. Par exemple, mon film préféré, Édouard Romain d'Argent. À chaque fois que je dois écrire une scène de neige, je me regarde Édouard Romain d'Argent. Je m'imprègne des flocons qui tombent doucement avec la musique de Danny Elfman et c'est bon, je suis chaud pour écrire un chapitre. Voilà, je peux m'inspirer d'un nuage qui passe, le chant d'un oiseau, n'importe quoi. Ce qu'il y a, c'est que ce que je ne peux pas expliquer, c'est par quel mystère le cerveau transforme tout ça, transforme ça pour en tirer finalement un récit, une histoire. Ça reste du mystère, et tant mieux. Si tout était explicable, est-ce que ce serait aussi intéressant ?
Sans doute que non, effectivement, mais l'avantage aussi, c'est que si tout est explicable, on a plus de questions à poser, parce que c'est vrai que si rien n'est explicable, on est un petit peu plus embêtés, effectivement, nous les journalistes. Mais vous avez tout à fait raison, Aurélien. Donc, si l'on souhaite suivre votre actualité, comment fait-on ? Est-ce qu'il y a un blog, une page Facebook, un site internet ?
Vous allez sur la page de mon éditeur, l'École des loisirs, c'est mon éditeur principal. Et qui donne de mes nouvelles. Parce que moi, je n'ai pas de... Non, moi, je suis un dinosaure. J'ai pas de Facebook, de Twitter, tout ça. Vous savez que j'écris encore à la main au crayon. Vous savez, le crayon avec de l'encre dedans.
Je sais encore comment fonctionne, effectivement. Voilà. Et c'est bien aussi, justement, de garder ce côté artisanal. J'imagine, du coup, aussi que c'est important pour vous, peut-être, en tant qu'auteur, d'avoir ce contact avec le papier et le crayon, et de ne pas, comme certains peuvent le faire d'ailleurs, et c'est tout à fait leur droit, de tout taper à l'ordinateur. Vous avez encore peut-être du coup le carnet où vous prenez une note dans quelque chose qui vous inspire. Vous êtes de cette trempe-là d'auteur.
Oui. J'ai carnet dans mes poches, dans mon sac, tout le temps, des crayons. Je prends des notes partout, en me promenant, en faisant mes courses, en buvant un café. Mon carnet, je l'appelle le piège à idées. Voilà. Parce que l'idée, si on ne l'attrape pas tout de suite, des fois, elle ne revient pas. Donc, il vaut mieux l'attraper tout de suite. Et avec mes idées, j'ai besoin de ce contact. Voilà. J'aime bien comparer, c'est pas un métier, c'est un artisanat. Voilà. Et il y a les artisans et les menuisiers, par exemple, qui vont travailler une matière, le bois, avec leurs outils, leurs ciseaux à bois, tout ça. Moi, je travaille une matière spécifique, le mot, avec quelques outils qui sont les crayons, les dictionnaires, les feuilles. Et j'ai besoin de ce contact, j'ai besoin de cette sensualité avec les objets. Ça m'aide vraiment à bâtir mon histoire. J'ai déjà essayé de faire ça directement sur ordinateur. Ça prend pas, donc je suis de la vieille école.
Artisan du livre, donc très bien, Aurélien. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes nominé dans la sélection des grignoteurs pour présenter votre ouvrage Gabin, publié à l'École des loisirs et sorti en 2015. Merci à vous.
Merci.
16h51 et Jean-Philippe, je te retrouve au cœur de ce salon Rural Livre.
Tout à fait, Julien. Je vais me diriger à présent vers le stand d'imprimerie. Puisque figure-toi que des enfants, actuellement, des collégiens, essayent de faire de l'impression à l'ancienne. Donc je vais me diriger vers l'animateur de ce stand qui est en pleine activité. Il ne sait même pas que je vais l'interroger. Mais voilà, ça va être le cas tout de suite. Donc on va tout de suite interroger ce monsieur. Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter.
Jacques Bocquet, je fais partie du... conseil d'administration de la Fédération des foyers ruraux et je suis ici pour faire de l'imprimerie sur Rural Livre. Vous voyez qu'autour de nous qu'il y a plein de monde, plein d'élèves qui sont passionnés par cette façon d'écrire qu'ils ne connaissent plus et déjà depuis longtemps, puisque maintenant l'ordinateur a tout envoyé valser et tout renvoyé dans les greniers. Voilà.
Alors expliquez-nous comment ça fonctionne au niveau de cet atelier aujourd'hui.
Eh bien... on vient en atelier libre et puis on vient écrire son petit mot ou bien sa petite phrase, bonne fête maman, voyage, voilà, j'en ai plein comme ça sur et on le pose sur la presse. Donc, alors là, attention, on compose selon l'ancienne tradition des imprimeurs, alors on commence par la droite et on finit par la gauche. Et on va ancrer puis poser sa feuille. Et qu'est-ce qui ressort, évidemment ? Le contraire, une feuille bien écrite et très belle. Voilà.
Très bien. Est-ce que, justement, les élèves vous paraissent intéressés par ce procédé ? On va leur poser la question, tiens. On va leur poser la question. Alors, qui vient de réaliser sa feuille d'impression, déjà ? Pas encore ? Toi, tu viens de le faire. Alors, ton prénom ?
Émilien.
Alors, Émilien, bonjour. Et dis-moi d'où tu viens, de quel collège ?
Saint-Bertuf à Fruges.
Alors, est-ce que tu t'attendais à voir cet atelier d'imprimerie aujourd'hui ?
Non.
Est-ce que tu es surpris par la technique utilisée ?
Ouais, quand même, parce que les anciens, on voit qu'ils travaillaient bien.
Et ça te paraît compliqué à faire, justement, parce que bon, là vous faites des feuilles, on va dire relativement simples, mais pour un livre complet, ça paraît quand même assez fastidieux, non?
Bah, quand on comprend mieux, ça va mieux, mais quand on l'a pas encore fait, bah, c'est quand même difficile.
Alors donc, qu'est-ce que tu as écrit toi comme mot?
Moi j'ai écrit mon prénom, mais je voulais écrire celui de ma sœur, ma mère, bah, enfin ma famille, mais j'ai pas le temps.
Ok, très bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Et puis bon, on va prendre un autre témoignage. Tiens, je vais aller voir une élève.
45 secondes.
Ah bah, s'il nous reste que 45 secondes, eh bien on va, je vais rendre l'antenne alors du coup, parce que ça va très vite.
Oui, ça c'est les aléas du direct, effectivement, ça passe très très vite. Et d'ailleurs, eh bien, dans quelques instants, ce sera la dernière heure pour ce mardi en direct de Ruralivre à Fruges. On vous proposera notamment un retour sur l'atelier country qui a lieu à l'occasion de cette édition de Ruralivre. On le rappelle, Ruralivre, ce sont bien sûr des auteurs, des éditeurs, des dessinateurs de BD, des libraires qui sont présents, et puis des ateliers qui sont proposés aux jeunes collégiens et aux jeunes scolaires qui visitent ce salon. L'initiation à l'imprimerie, comme vient de vous le présenter Jean-Philippe, et plein d'autres rendez-vous. Et ça, on en parle à partir de 17h sur Radio+. Restez bien branchés sur le 104.3. À tout de suite.